Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau, interniste à l'UCPQ, et bienvenue à cette nouvelle mouture des petites vites en médecine interne sur des sujets qui sont peu fréquemment traités, mais qui sont importants pour un interniste et qui m'ont intéressé récemment. Alors, mon invité aujourd'hui est Maude Cameron Gagné, qui est résidente en médecine et qui sera bientôt fellow en obésité. Alors, bonjour Maude, je crois que tu veux nous parler là, de la maladie de la stéatose hépatique, parce qu'il y a un nouveau guideline qui est sorti.
Oui, absolument. Donc, il y a un nouveau guideline de l'Association américaine de l'étude des maladies hépatiques, donc l'AASLD, qui est sorti tout récemment là, avec des nouveaux guidelines sur le NAFLD.
Alors, peux-tu nous expliquer un peu l'étendue pour les anglophones de notre groupe, le NAFLD, peut-être nous traduire ça en français, me donner un peu l'étendue de la maladie?
Oui, donc le NAFLD ou le NAFLD là, pour les plus intimes, c'est le Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Donc, c'est vraiment le foie gras chez les patients là, qui ont une stéatose hépatique et qui ne prennent pas d'alcool. Ça représente vraiment un spectre d'atteinte hépatique allant de la stéatose hépatique qu'on appelle le NAFL, qui est vraiment juste un foie gras, au NASH, qu'on appelle la stéatohépatite non-alcoolique, qui est vraiment un foie gras, donc la stéatose en plus d'une enzymite hépatique, au spectre final, là, qui est vraiment la cirrhose. Puis le NAFLD, c'est une pathologie qui est quand même prévalente, là, 25 à 30 % de la population, qui est souvent découvert fortuitement à l'imagerie ou lors d'une prise de sang avec élévation des enzymes hépatiques.
Donc, je vous dirais comme interniste que c'est une des consultations les plus populaires ces derniers temps avec le guichet, parce qu'on dirait que le monde entier découvre le NASH ou la stéatose hépatique, la stéatohépatite. Alors, qui devrions-nous dépister, Maude, dans notre clientèle?
Oui, donc, selon les guidelines de l'AASLD, on devrait dépister tout patient diabétique de type 2, tout patient avec obésité médicalement compliquée, tout patient avec un NAFLD, donc une stéatose hépatique, par exemple, ou avec des enzymes hépatiques augmentées, et tout patient qui a un parent du premier degré là, connu pour une cirrhose NASH, parce que ces patients-là ont 12 fois plus de chances là, de développer eux aussi une fibrose au niveau hépatique. Donc, tous ces patients-là devraient avoir un dépistage annuellement. Puis même qu'on parle que les patients pré-diabétiques ou les patients avec plus de 2 facteurs de risque cardiovasculaire pourraient également bénéficier d'un dépistage là, de la maladie.
Mais là, je vais mettre mon chapeau populationnel. C'est sûr qu'on peut pas faire un dépistage avancé à tous ces gens-là parce que le système de santé va être surchargé. Mais il y a quand même une façon de dépister les patients plus à risque de la complication qu'on veut éviter, qui est la fibrose avancée. Et là, tu vas nous parler sûrement du score FIB 4.
Effectivement. Donc, le score FIB4 a vraiment été l'outil là, qui a été désigné pour dépister les patients pour une fibrose avancée. Pourquoi? Parce que le score FIB4, ça a une excellente valeur prédictive négative. C'est donc dire que si le score est négatif, les chances que le patient ait de la fibrose est très faible. Puis, c'est aussi un outil de dépistage là, peu coûteux. En fait, le FIB4, c'est un score qu'on peut calculer à l'aide de l'âge, des AST, des ALT et des plaquettes. Donc, c'est un score qui est un peu complexe qu'on ne peut pas faire dans notre tête, mais qui est facilement accessible là, sur un appareil électronique ou sur un ordinateur. On rentre les valeurs, puis ça nous donne un score. Les scores en bas de 1.3 sont à faible risque de fibrose, alors que les scores au-dessus de 1.3 mériteraient une référence en médecine spécialisée.
Mais donc, c'est assez facile. Là, pour encore là, mon rôle éditorial du gars pratique, vous prenez votre téléphone intelligent, votre ordinateur, vous marquez score FIB4 et vous allez avoir un beau calculateur en ligne qui va faire les calculs pour vous. Il y a quand même la difficulté que les ALT, AST, de bien demander les examens, surtout dans la région de Québec. Marquez, lorsque vous demandez AST, ALT, le score FIB4 pour que le biochimiste se sente obligé de faire les deux enzymes, parce que sinon, ils ont tendance à faire seulement qu'un des deux seules enzymes. Donc, on va regarder maintenant, on a fait notre score, on a pensé que notre patient était à risque. Peux-tu nous parler qu'est-ce qu'il faut regarder à l'histoire et à l'examen physique?
Mais à l'histoire, ce qui est important surtout, c'est de regarder pour l'historique du poids du patient. Donc, est-ce que le poids est augmenté? Est-ce que le patient est en surpoids? Est-ce qu'il présente une obésité? C'est quoi ses antécédents médicaux? Les médicaments qu'il prend actuellement, mais aussi les médicaments anciens qu'il a pris, les histoires familiales là, de diabétiques de type 2, de maladies là, comme le NAFLD ou de cirrhose, l'apnée du sommeil, évidemment la consommation d'alcool, la décrire, là, combien de consommation depuis combien d'années, quel type d'alcool, puis est-ce que anciennement le patient est un gros consommateur. Donc ça, c'est vraiment les éléments clés à rechercher à l'histoire. Alors qu'à l'examen physique, bon, évidemment, c'est le calcul de l'IMC avec le poids, la taille, la distribution de la masse graisseuse. Ensuite, des signes de résistance à l'insuline, là, les fat pads, les acanthosis nigricans ou les signes de cirrhose, là, fait qu'une hépatosplénomégalie, de l'ascite, des veines ombilicales proéminentes, de la gynécomastie, des gingivites stellaires, l'extrême palmaire et plus encore. Là.
Il y a quand même des médicaments aussi, on a parlé des médicaments présents, mais aussi anciens qui ont pu être arrêtés récemment. J'aimerais ça que tu me dises quels sont les médicaments, les grands coupables qui peuvent être liés à la stéatose hépatique et à ses complications.
Oui, bien les grands coupables, là, c'est assez simple. Là. On a l'amiodarone, le tamoxifène, hein, ça c'est un médicament payant à aller chercher chez les femmes qui ont eu des cancers du sein, même il y a plus de 20, 30, 40 ans. Donc le tamoxifène anciennement, dès que le patient a un cancer du sein chez la femme, il faudrait le rechercher là, spécifiquement en le demandant. Est-ce qu'elle aurait eu de l'hormonothérapie? Sinon le méthotrexate, puis au niveau des chimiothérapies, c'est surtout le 5-FU puis l'irinotécan.
Je pense aussi que tu nous parles des corticostéroïdes.
Oui, les corticostéroïdes peuvent également là, donner une histologie de stéatose hépatique là, à l'imagerie.
Donc, on a vu que certains patients donc, étaient à risque là, avec le score FIB4. On a fait l'histoire. Maintenant, quelles sont les investigations lorsqu'on voit des enzymes hépatiques élevées et qu'on veut peut-être confirmer que la principale cause du patient d'enzymes hépatiques élevées, c'est bien la stéatose hépatique et non pas d'autres maladies?
C'est sûr qu'à la base, on veut un bilan hépatique pour justement évaluer les AST à ALT. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que des ALT à AST au-dessus de 30, c'est pas normal. Puis ça suggère même là, une maladie hépatique chronique. Puis c'est malheureusement, les laboratoires mettent des valeurs normales qui sont au-dessus de ça, ce qui fait que plusieurs patients peuvent passer sous le radar. Donc, je vous invite tous à rester attentifs. Les AST à ALT au-dessus de 30, ce ne sont pas normales. Il faudrait rechercher la maladie hépatique. En plus du bilan hépatique, évidemment, on demanderait une formule sanguine, surtout pour les plaquettes qui vont nous aider à calculer notre score, FIB4, un glucose, un HbA1c, un bilan lipidique, une créatinine, un sommaire des urines, l'hépatite B, les hépatites C. Puis, on veut aussi rechercher là, les autres causes de stéatohépatite qui sont un peu moins fréquents, mais qu'il faut éliminer là, avant de conclure à un NAFLD, donc un foie gras. Donc, quelles sont ces maladies-là? Donc, évidemment, les maladies auto-immunes, comme l'hépatite auto-immune, la cholangite biliaire, qui, entre autres, on peut éliminer avec en faisant un facteur antinucléaire, un dosage des immunoglobulines, des antimitochondries, des antimusculisques et des anti-LKM. On voudrait également éliminer l'hémochromatose avec un bilan martial là, pour regarder la ferritine et le pourcentage de saturation. La maladie de Wilson en dosant une céruloplastinine. Éliminer le déficit en alpha-1 antitrypsine en dosant l'alpha-1 antitrypsine, puis aussi la maladie cœliaque là, en dosant les antitransglutaminases. Puis on se rappelle qu'on avait fait les immunoglobulines initialement là, qui vont nous permettre, entre autres, de s'assurer que le patient n'a pas un déficit en IgA qui pourrait faire un faux négatif à notre prise de sang d'antitransglutaminase.
Donc, on a vu par les examens qui sont payants. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus payants que d'autres. Les hépatites auto-immunes, on n'a pas le droit de les manquer parce que les traitements sont complètement différents. L'hémochromatose, une maladie génétique très fréquente au Québec. 1% de la population est homozygote. Et donc, ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a d'autres maladies qu'un interniste avisé devrait connaître, plus rares. Puis j'aimerais, on va revenir aussi sur la maladie de Wilson et la maladie cœliaque. Alors, je t'écoute, Maud.
Oui, bien, c'est sûr que la maladie de Wilson, c'est plutôt rare chez la personne âgée. Fait qu'il n'y a pas vraiment de cut-off précis dans la littérature sur lesquels on devrait demander ou pas demander. Mais en général, les patients de 50 ans, là, on peut s'abstenir de demander la céruloplasmine. Même chose pour l'alpha-1 antitrypsine. Puis la maladie cœliaque, là, ça dépend un peu, là, entre autres, de l'histoire du patient, s'il y a de l'anémie au long cours ou d'autres symptômes qui pourraient nous faire penser là, aux à la maladie cœliaque puis la nécessité de faire ce dosage-là.
Pour la maladie cœliaque, mon éditorial encore, c'est une maladie horriblement fréquente. 1 à 2 % de la population a vraiment de la maladie cœliaque. Il y a beaucoup plus de gens qui font des diètes pour la maladie cœliaque qui ne sont pas atteints. Mais dans le cadre d'enzymes hépatiques un peu mystérieux, je pense que ce n'est pas de mauvaise guerre de demander des tests pour la maladie cœliaque. Maintenant, il y a un algorithme qui est précisé, qui tient compte des trouvailles une fois qu'on a eu nos enzymes hépatiques, qu'on a eu des doutes d'un examen qu'on fait à l'échographie pour calculer la fibrose. Alors j'aimerais que tu nous parles de notre fameux examen qui est maintenant disponible un peu partout dans la région de Québec.
Oui, donc l'algorithme généralement qu'on parle, c'est que les médecins de première ligne ou même les spécialistes qui voient ces patients-là pour la première fois, généralement, on aimerait ça qu'il y ait un score FIB-4 de calculé. Donc, en fait, comme on a mentionné tantôt, idéalement, tout patient diabétique de type 2, prédiabète, obésité, NAFL ou parent du premier degré avec une cirrhose NASH, bon, devrait avoir leur FIB-4 annuellement ou aux 2 ans. S'il est en bas de 1,3, on est rassuré, puis on recalcule le score l'année d'après. Si le score est au-dessus de 1,3, alors là, il y a un risque de fibrose avancée. Puis à ce moment-là, on suggère de référer à un médecin aux spécialités médicales comme les internistes ou les gastro-entérologues. Puis eux, avec un outil là, tel que le FibroScan, ça va nous permettre de déterminer le degré de fibrose, qui va surtout nous permettre d'identifier les patients qui sont encore plus à risque de cirrhose. Fait qu'un patient qui a un score de fibrose à 4 sur 4 a probablement là, une cirrhose, parce qu'on se rappelle que la méthode diagnostique la meilleure pour la cirrhose, c'est la biopsie, mais qu'on peut quand même remplacer un peu la biopsie par le fibroscan. Donc, si on a un score de fibroscan à 4 sur 4, on a une cirrhose. Puis, pour les patients qui ont un score de fibrose à 2 ou 3, qui est quand même considéré comme une fibrose avancée, on suggère là, de répéter le fibroscan annuellement. Puis, les scores de fibrose de 1 là, pourraient avoir un fibroscan de contrôle dans 2 à 3 ans.
Je crois qu'il existe d'autres calculs ou d'autres outils qui peuvent être utilisés, mais qu'on utilise moins aussi pour mieux estimer le risque si on n'a pas accès nécessairement au fibroscan facilement.
Oui, exactement. Il y a plusieurs autres scores qui existent, mais pour l'instant, là, c'est vraiment le FIB-4 qui est le plus utilisé en dépistage de première ligne, puis ensuite, idéalement, là, le FibroScan. Malheureusement, il n'y a pas d'autres outils encore qui dépasseraient le FibroScan.
Là, maintenant qu'on s'intéresse à la stéatose hépatique ou à la stéatohépatite, on veut éviter les complications. Mais comme internet, absolument, on s'intéresse à une maladie quand il y a des traitements et moins quand il n'y en a pas. Donc, on commence à avoir certaines percées thérapeutiques. Peut-être nous brosser un petit tableau très rapide.
Oui, ben c'est sûr que quand on parle du spectre du NAFLD, je prends pour acquis que tout le monde a éliminé les autres causes qu'on a parlé sous-jacentes, là, tantôt comme l'hémochromatose, l'hépatite auto-immune et compagnie. Donc, quand on reste vraiment avec un foie gras sans autre étiologie précise, malheureusement, il n'y a pas encore de traitement là, approuvé spécifiquement pour le NAFLD. Donc, c'est vraiment pour l'instant l'optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on favorise des habitudes alimentaires plus saines. On peut faire voir les patients en nutrition. On les encourage à augmenter leur activité physique en vue de perdre du poids. Puis, sinon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des médicaments qui ont été associés dans la littérature avec une amélioration de la stéatose puis du NAFLD, mais qui n'ont pas encore là, été prouvés, approuvés pour le traitement spécifique. Fait qu'à ce moment-là, je parle de la vitamine E, de la pioglitazone, des agonistes GLP-1, du tirzépatide et des inhibiteurs des SGLT2. Fait que comme je dis, en ce moment, il n'y en a aucune qui est approuvée simplement pour cette condition médicale-là. Mais c'est sûr que si votre patient il a un diabète de type 2 ou il a une obésité, alors là, ça peut valoir la peine de lui mettre de l'Ozempic pour, entre autres, là, lui faire perdre du poids puis améliorer sa stéatose là, comme bénéfice secondaire. Puis il y a également la chirurgie bariatrique qui entraîne des bénéfices au niveau de la stéatose hépatique. Donc, si j'ai un patient qui pourrait rencontrer les critères, là, ça pourrait être aussi un outil pertinent. Puis aussi, il faut juste savoir que selon les guidelines de l'AASLD, un score de fibrose de 2 et plus là, devrait être une contre-indication absolue à la consommation d'alcool. Et donc, les patients ne devraient plus consommer aucunement de l'alcool à partir d'un score de fibrose 2 et plus.
Je te remercie beaucoup, Maude. C'était vraiment une petite vite de 15 minutes. J'espère que vous avez apprécié. On va mettre en ligne sur ceux qui ont accès au site de la faculté ou ailleurs ce nouveau guide de pratique. Maude, j'espère que tu vas passer, nous ramener de belles connaissances de ton fellow et que tu vas revenir dans quelques années pour nous supplanter et nous ouvrir la voie dans la prise en charge optimale de cette condition qui est malheureusement trop fréquente. Alors merci, je vous invite à une autre petite vite de médecine interne dans les prochaines semaines.